Biston clac, biston clac, biston clac, nous aimons la chanson française. Biston clac, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le point semelle l'apôtre, cette phrase est notre devise, notre devise. Biston clac, biston clac. Biston clac, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston clac, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le poète, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie. Philosophie. Biston clac, biston clac, biston clac.
C'est écouter avec méfiance ceux qui prétendent que les massacres d'aujourd'hui pourront empêcher d'autres massacres plus importants demain. Être pacifiste, c'est, sans méconnaître les droits de l'avenir, donner la priorité à la vie des vivants. Être pacifiste, c'est vouloir la paix, même si elle n'a pas tout à fait la couleur qu'on préfère. Être pacifiste, c'est lui rendre grâce, alors même que toutes nos passions ne trouvent pas leur compte. Être pacifiste, c'est admettre que l'intérêt de la paix ne coïncide pas toujours avec celui de la patrie. Être pacifiste, c'est ne pas consentir aux grossières falsifications que diffusent les propagandes. Être pacifiste, c'est ne pas clamer qu'on veut la paix quand on fait le jeu des fanatismes qui la rendent impossible. Être pacifiste, c'est vouloir la paix, même si elle n'a pas tout à fait la couleur qu'on préfère. Être pacifiste, c'est condamner dans tous les temps, tous les jusqu'au boutisme et toutes les intransigeances. Être pacifiste, c'est s'affliger quand on voit un fusil ou une arme quelconque dans les mains d'un enfant. Être pacifiste, c'est tout mettre en œuvre pour que les réconciliations devancent les charniers.
Être pacifiste, Jean Rostand pour les paroles, Jacques Ivar pour la musique et l'interprétation. Louis Manien, bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie de votre présence ici. Vous êtes notre invité ce soir pour parler en particulier d'une affaire, entre guillemets, au cours de laquelle vous êtes, au cœur de laquelle vous êtes trouvé mêlé en octobre 58. L'affaire dite du Prado sur fond de guerre d'Algérie. Que reste-t-il aujourd'hui de cet événement dans la mémoire des Lyonnais? En reparler, en tout cas, va nous permettre d'évoquer les thèmes et des idées qui traversent toutes les époques et vos préoccupations, ceux et celles des droits de l'homme et des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le fait que cette affaire concerne des ecclésiastiques dont vous êtes en est une spécificité, mais auparavant, nous évoquerons un peu votre parcours personnel. Je dirais, avant de vous laisser la parole, que vous êtes né le 25 mars 1921 à Caluire et qu'en octobre 58, vous aviez 37 ans, vous étiez prêtre et vous étiez alors adjoint au supérieur du noviciat du Prado. Entre ces deux dates, 1921-1958, s'est passé beaucoup de choses pour vous, bien sûr. Je vous propose en quelques minutes, avant qu'on en vienne à cette affaire du Prado et puis plus généralement à des questions qui en découlent, de nous évoquer votre parcours.
D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et j'ai trouvé votre invitation honnête et sympathique. Je ne suis pas une personnalité, je suis un parmi beaucoup d'autres. Il se trouve que je suis prêtre et pour moi, ça n'est pas sans importance. Et s'il fallait évoquer un peu mon parcours, je dirais d'abord que je suis un gone, un lyonnais, et même si j'ai quelques racines paysannes par ma mère, j'ai passé mon enfance dans ce quartier des terreaux, et quand j'allais à l'école sur les pentes de la Croix-Rousse, je passais 4 fois par jour devant cette radio. Il n'existait pas alors, bien sûr.
C'était quoi à l'époque? Un commerce? Mais quel commerce?
Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais plus ce que c'était. Donc je suis donc né dans ce... pas à Caluire, mais à Écully.
Ah, à Écully.
Oui, ben, c'est pas grave.
Une erreur de presse.
Je suis à peine resté. C'est vraiment un lieu où je n'ai pas de racines. Mes parents n'ont fait qu'y passer. Puis donc j'ai passé mon enfance là, au terreau. Et en 1937, à 16 ans, je suis entré au travail comme dessinateur débutant dans une entreprise. Et c'est que au moment de la guerre de 40 que j'ai décidé d'être prêtre. Mais je souligne que ma génération a été beaucoup marquée par la guerre. Mon enfance a été bercée par les histoires de guerre de mon père, la Première Guerre mondiale, la Der des Der, celle qui devait vraiment terminer toutes ces abominations, et puis 20 ans plus tard, il y en avait une autre, et pendant 6 années, notre jeunesse a été marquée par cette ambiance de larmes, de lamentations, de canons, de délations, de déportations, de bombardements, et c'est quelque chose qui peut faire comprendre aussi qu'on n'aime pas la guerre. Et je vous remercie d'avoir introduit l'émission par cette mise en musique des paroles de Rostand, être pacifiste. Être pacifiste, disait-on, c'est vouloir la paix, même si elle n'a pas tout à fait la couleur qu'on préfère. Et je pense que je me reconnais dans cette définition, je suis pacifiste, je déteste la guerre, et je suis persuadé que la guerre n'est pas une solution pour régler aucun conflit. Alors, pour continuer mon parcours, j'ai pas fait un parcours héroïque, mais pas du tout. J'ai fait les chantiers de la jeunesse du maréchal Pétain en 1942 et 1943. Ce que j'ai apprécié, c'est de ne pas porter les armes. Je déteste les armes. Et je montais la garde avec une hache de bûcheron. Ça me convenait mieux. Ensuite, j'ai été requis pour le STO en Allemagne. Et comme tous les citadins, nous n'avions guère d'échappatoire si l'on voulait pas attirer des représailles sur la famille. Alors, je suis parti, comme tout le monde. Et là-bas, j'ai fait, comme beaucoup de mes camarades, C'est un peu ce qu'on appelait la résistance spirituelle. C'est entretenir un esprit de résistance. C'était notre participation à cette lutte contre le nazisme. Et au retour du STO en Allemagne, eh bien, j'ai pris la décision d'être prêtre et je suis rentré au grand séminaire de Lyon, d'abord au séminaire du Prado, puis au séminaire de Lyon. Et une fois prêtre, j'ai été nommé vicaire à la Guillotière en 1951. Et c'est là que j'ai découvert cette émigration, immigration massive des Algériens qui m'a beaucoup touché. Et c'est à partir de là que je me suis trouvé un peu plus mêlé à cette histoire qui allait devenir tragique à partir de 1954. Et puis en 1956, j'étais à Saint-Fond. C'est là que m'ont surpris des événements dont vous avez parlé. J'étais donc adjoint au supérieur du noviciat des prêtres du Prado, donc qui préparait, qui faisait la formation des prêtres du Prado. Et puis, je suis resté là jusqu'en 1968. Bon, la suite...
On va peut-être revenir à cette période de 51. Donc, vous étiez vicaire à Saint-André et la Guillotière. C'est l'église qui est dans la rue de Marseille, ça, non ?
C'est l'église qui est dans la rue de Marseille, exactement.
Et donc, vous avez découvert là la situation des Algériens français en France, quoi, des immigrés. Et en plus, vous avez fait la connaissance dès ce moment-là d'un autre prêtre qui s'appelait Albert Carteron et qui était déjà sensibilisé à tout ça depuis 48, vous me l'avez dit.
Tout à fait. Alors, mon approche des problèmes, elle est pas d'abord politique. J'ai d'abord rencontré des gens, j'ai vu des gens, j'ai vu les Algériens, j'ai vu dans quelles conditions ils vivaient. Il y avait dans cette époque-là une émigration assez massive. La caserne de Lapardieu, qui était désaffectée, là où se trouve actuellement la gare de Lapardieu, accueillait, entassait dans ses murs des immigrés algériens qui venaient pour travailler. Et j'ai d'abord vu quelle était leur vie, quel était leur traitement et comment ils étaient regardés et considérés, ou plutôt déconsidérés, par la masse des Français. J'ai vu dans ce quartier de la Guillotière, le soir, à la fermeture des cafés, des tables qu'on joignait les unes aux autres. J'ai vu des hommes couchés sur ces tables, des hommes couchés sous les tables. J'ai vu dans des combles de maisons, par exemple, je me souviens très bien de cette maison de la rue Bancel qui avait des combles immenses, que le propriétaire avait aménagé en petites cellules et où il logeait à prix fort des Algériens. Il dormait 5 par cellule, un sur le lit, un sous le lit et 3 qui étaient accroupis. Et ils passaient leur nuit comme ça, et le lendemain matin, ils allaient travailler. J'ai vu et j'ai montré aux gens de mon voisinage, sous le pont de la Guillotière, en plein froid, 30, 40 Algériens qui arrivaient sous le pont, qui se camouflaient avec des cartons, des papiers journal, et puis qui faisaient un feu, qui se tenaient autour. Pourquoi ? Et la population semblait les ignorer. Les ignorer. Je me souviens d'avoir fait un jour avec des gens de mon quartier ce tour-là que tous ignoraient. Ils découvraient. Je me rappelle la réaction de cet homme qui me disait « Tous les matins, je passe là sur ce pont de l'université avec ma fille pour l'emmener à l'école en face et jamais je me suis douté que dessous avaient passé la nuit des hommes grelottants de froid et ils sont chez nous. » Voilà. Alors, cette découverte du monde algérien, c'est pas la guerre d'Algérie. Enfin, la question algérienne, je l'ai découverte dans le peuple algérien. La guerre d'Algérie est venue après. Et quand la guerre d'Algérie est venue, nous étions déjà liés à ce peuple algérien et nous avions fait notre possible, comme prêtres, pour attirer l'attention au moins de ceux dont nous avions une certaine responsabilité. Ce peuple chrétien se devait de porter attention à ces hommes souffrants. Et c'est d'abord par la souffrance et par la mauvaise condition de vie de ces hommes que nous sommes entrés en contact. Alors effectivement, vous avez évoqué tout à l'heure Albert Carteron. Il y avait aussi un autre prêtre dans ce quartier qui s'appelait Henri Lemann. Deux hommes qui étaient tout à fait présents à ce monde on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure, et qui ont beaucoup contribué aussi à maintenir mon attention et provoquer ma conscience par rapport à cette population.
Je vous propose peut-être une pause musicale. Finalement, ces Français d'Algérie qui étaient en France étaient à peu près dans le même statut que des étrangers, bien qu'ils avaient la nationalité française à l'époque. Jacques Prévert, dans un texte qui s'appelle « Étranges étrangers », a stigmatisé un petit peu cette situation. C'est une interprétation et une mise en musique par la Chorale populaire de Paris, dont je vous propose au moins un large extrait. C'est un extrait d'Étranges étrangers, ce texte de Jacques Prévert, mis en musique par Georges Delerue, interprété là par la Chorale populaire de Paris. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ce soir avec Louis Magnien pour évoquer la situation des Algériens en France et certains événements autour de 58 auxquels il s'est trouvé directement, dans lesquels il s'est trouvé directement impliqué. On était donc à cette période du début des années 50, au moment où survient la guerre d'Algérie. Vous étiez vicaire à Saint-André. Comment vous êtes-vous retrouvé aux clochettes à cette époque-là et à quel moment?
C'est tout simplement parce que mes supérieurs m'ont nommé ailleurs et qu'ils m'ont demandé de quitter le quartier de la Guillotière pour aller à Saint-Fond, dans le quartier des Clochettes, où se trouvait la maison de formation des prêtres du Prado, où une trentaine de prêtres chaque année venaient passer une année entière pour prendre un peu de recul sur ce qu'ils avaient vécu jusque-là et porter un regard neuf sur leur vie d'une manière tout à fait simple à partir de retour à l'Évangile.
Hein? Oui. Avec des prolongements quelquefois, bon ça on l'évoquera pas beaucoup ce soir, mais d'une implication différente dans leur retour à la vie ecclésiastique sous forme de prêtres ouvriers ou prêtres dans des statuts un peu spéciaux.
Je pense pas que l'ensemble des prados soit dans un statut très spécial. Et à la grande époque des prêtres ouvriers, sur 800 prêtres ouvriers qu'il y avait, le prado en avait 80. Oui, un dixième. Mais il est vrai que les prêtres du Prado demandent à être situés auprès des populations plus déshéritées, voire des opprimés, des exclus, et aussi au cœur des populations ouvrières, avec toute la vitalité que ça représente et que ça représentait surtout dans ces années 50, où le mouvement ouvrier était très important. Alors il est vrai que les prêtres du Prado, au retour de cette année de formation, retrouvaient des contextes différents, mais toujours, ou pratiquement toujours, au milieu de populations plus déshéritées, selon leur vocation.
La guerre d'Algérie arrive donc en 54 et l'abbé Carteron, donc, vous m'avez dit, habite une petite chambre à l'époque rue Villeroy. Il est déjà très lié au milieu des Algériens en France et en région lyonnaise. Il se trouve confronté, ces Algériens, à une violence policière permanente, à des arrestations, et puis il tente de mettre en œuvre une organisation sociale pour subvenir un petit peu à leurs difficultés, si vous voulez expliquer ça un petit peu plus précisément que je ne le fais.
Alors, Albert Carteron s'est toujours défendu d'être l'organisateur de ce service social. Il a beaucoup soutenu ceux qui en ont eu l'initiative, parce que c'était dans sa philosophie et dans sa manière de faire, de mettre les gens à l'œuvre, de faire prendre conscience aux gens de leurs responsabilités et de les y accompagner, de les y encourager. Mais il n'a été pour rien dans la fondation. Simplement, il leur a donné la possibilité de réaliser ce qu'ils avaient entrepris en leur proposant un lieu sûr pour exercer leur activité humanitaire. Et c'est donc là qu'il nous a contactés. Je dis « nous », c'est le supérieur du noviciat des Clochettes et moi-même, pour leur offrir un lieu où ils puissent décemment réaliser leur tâche de service social. N'oublions pas qu'à l'époque, on dénombrait 900 détenus politiques algériens, qui n'étaient pas des détenus politiques, mais qui n'avaient pas ce statut-là, mais qui étaient détenus. Alors, vous entendez bien que ce ne sont pas 900 terroristes, ce sont 900 Algériens qui, pour un bon nombre d'entre eux, étaient des militants de leur cause, mais qui n'étaient pas des terroristes. Et ces 900 détenus de la prison Saint-Paul, c'était 900 familles décapitées, et avec des ressources très amoindries, qui devaient se contenter des allocations familiales. Donc c'était urgent d'organiser cette entraide entre les Algériens, et c'est pour donner corps à cette initiative que nous avons accepté volontiers d'accueillir quelques-uns d'entre eux, pour leur permettre de faire leur travail. Leur travail, c'était très simple. On leur donnait un lieu sûr pour mettre l'argent, et puis de quoi travailler, faire leur mandat, faire leur compte.
Puis avoir leurs documents avec les noms des bénéficiaires.
Voilà,
tout ça,
il y avait toutes les listes des bénéficiaires sécurité, qui étaient là et qui étaient en sécurité. Parce que c'était difficile de trouver un lieu sécurisé à l'époque. C'était 1958. C'est un moment très très chaud. On est à la moitié de la guerre d'Algérie. En France, la population est très très divisée. Les soldats du contingent font que les familles se sensibilisent pour cette guerre et en ont assez aussi de cette guerre. Et puis les choses s'exacerbent entre les Algériens eux-mêmes. Il y avait ce fameux et tragique duel entre le MNA et le FLN. Donc la France était le lieu de beaucoup de tiraillements, de beaucoup de tensions et déjà de beaucoup de violence en 1958. Et j'ai moi-même connu à Saint-Fond, près de chez nous, des hôtels meublés où la police passait tous les soirs. Et quand on répondait pas assez vite, on enfonçait la porte. Et j'ai vu un hôtel où pratiquement plus aucune porte n'avait de serrure. Donc ils étaient vraiment pas en sécurité pour faire leur travail d'entraide sociale, et nous leur avons donné ce service très très simple et très modeste de pouvoir accomplir leurs tâches.
Là-dessus, on en arrive à ce qu'on a appelé à l'époque dans les journaux l'affaire de Lyon, c'est-à-dire que fin octobre 58, De Gaulle décide de venir à Lyon, une visite publique, et que, comme toujours dans ces cas-là, un petit peu avant, la police rafle tout ce qu'elle connaît comme sympathisants ou militants, de manière à éviter tout trouble éventuel. Il se trouve, si j'ai bien compris les informations de l'époque, que les militants raflés, on les a bien sûr un peu poussés à parler, entre guillemets, et que certains ont lâché qu'ils bénéficiaient de cette pièce au Prado pour leurs activités sociales, quoi. Et là-dessus, eh bien, un beau soir, pendant le repas aux clochettes, ben là, vous allez nous raconter. Un beau soir, un certain mercredi soir, 15 octobre 1958.
Effectivement, c'est, je crois, le 18 octobre 1958. Toute la communauté venait de se mettre à table et je me trouvais seul, là, le dernier, avec le père Chaise dans la maison, quand nous avons vu débarquer une sorte de commando de la police judiciaire de Lyon. C'était la brigade antiterroriste qui était conduite par Miloud Semoud, l'un de ses responsables de ce service social qui venait travailler chez nous. Et manifestement, il avait été traité rudement et il avait craqué. Menotté, il a conduit directement les policiers dans le petit local, la petite chambre qui était voisine de la mienne, où ils avaient tous leurs documents. Voilà. Alors, j'avais été prévenu dans la journée par Albert Carteron de l'arrestation des Algériens qui travaillaient chez nous. Et ayant été prévenu de cette arrestation, je me sentais tout à fait responsable des représailles qui pourraient avoir lieu s'ils découvraient la liste de toutes ces familles qui étaient assistées par le service social. Alors, nous avons mis à l'abri ces documents, et quand les policiers se sont présentés, conduits par Miloud, Semoud, ils n'ont rien trouvé. Ils les avaient pourtant mis tout de suite devant le lieu où ils auraient dû trouver ça. Les policiers étaient très fâchés, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils nous ont remis, au père Chaise et à moi, une convocation pour la police judiciaire le lendemain matin, jeudi, à 10h du matin.
Et le jeudi, donc, je crois que c'était le 16 octobre, donc vous allez subir 5 heures d'interrogatoire. Vous-même, père Chaise aussi, et pour finir tout ça, des interrogatoires pas très agréables, vous nous en direz peut-être quelques mots, même si les coups n'ont pas plu sur vous, c'était... Et puis à 19h, confrontation des 12 Algériens arrêtés avec les deux ecclésiastiques arrêtés aussi pour le coup, enfin, pour le moment, pas vraiment en situation d'arrestation, mais presque, quoi. Garde à vue.
En garde à vue. Il est vrai que ces interrogatoires nous ont beaucoup ébranlés. 5 heures d'interrogatoire, c'est long. Surtout que le mien avait été précédé de 5 heures d'attente pendant que le père Chaise passait le premier. Bien. Nous n'avons pas été brutalisés. C'était très rude sur le plan psychologique. Nous avons été rudoyés durement. Les policiers employant toutes leurs ressources pour nous faire avouer on ne sait trop quoi. Et ça a été très pénible. Ils ont passé du charme à la menace, à l'insulte, à l'injure. Ça a été très très pénible. Alors, quel était finalement l'objectif que recherchaient les policiers? Pour nous, c'était tout à fait clair, ils recherchaient à mettre la main sur Albert Carteron, sur le père Albert Carteron. Alors, ça demanderait, pourquoi recherchait-il le père Albert Carteron? Alors, ça nous amène à aller un petit peu au fond de cette relation qu'avait Albert Carteron avec le monde algérien. Je peux le développer légèrement. Albert Carteron était à Lapardieu depuis l'année 1958, bien avant la guerre d'Algérie. 1948, pardon. Ça faisait 10 ans, bien avant la guerre d'Algérie. C'était un homme de terrain, un homme d'écoute. un tempérament de prophète. Et d'ailleurs, il disait, le prophète, c'est d'abord une oreille avant d'être une bouche. Et il avait une capacité d'attention pour découvrir les gens, pour les connaître, pour découvrir leurs besoins, leurs aspirations, et pour les pousser à l'action qui était extraordinaire. Alors, c'est un homme très, très sérieux. Quand il est arrivé dans ce quartier, il y avait d'abord, avant de découvrir les Algériens, à découvrir la masse ouvrière de ce quartier. Et pour les comprendre, il a beaucoup écouté, entre autres, les militants. Il a beaucoup travaillé le marxisme pour comprendre ce qui pouvait les animer. Et quand il a découvert cette immigration massive des Algériens, il a fait le même genre d'approche. Et il est parti. Il a d'abord informé le cardinal Gerlier, qui était l'archevêque de Lyon de l'époque, et qui lui aussi était un homme d'écoute. Il l'a informé de manière très précise et très habituelle de ce que vivaient ces populations dans son quartier. Le cardinal y a été très très sensible. Finalement, il lui a dit, « Eh bien, je vous charge d'être le lien entre les communautés chrétiennes, notre église diocésaine et ses populations algériennes. Ce sont nos hôtes. » Le cardinal Gerlier disait, « Ce sont nos hôtes. Je suis responsable d'eux, devant Dieu, non pas pour en faire des chrétiens, mais pour découvrir leur aspiration et pour leur apporter, et faire en sorte que les chrétiens leur apportent le service auquel ils ont droit. Ils sont nos hôtes, ils sont sur notre terre. » Alors, il a donc confié au père Carteron, et Albert Carteron, qui était un homme extrêmement sérieux, a dit, je demande d'abord une année, peut-être même deux années, pour aller connaître ce peuple chez lui et étudier l'arabe. Il a étudié l'arabe qui parlait après parfaitement, couramment. Et il est revenu d'Algérie où, à Constantine, il vivait en travaillant dans une entreprise de nettoyage, et il apprenait l'arabe et prenait contact avec les populations sur place, sur leur terrain d'origine. Et il est revenu ensuite, et là, le cardinal Gerlier lui avait donné toute possibilité d'entrer en relation et de faire communiquer ces gens avec nos communautés chrétiennes. Et il avait même l'autorisation de quitter la soutane. Nous étions encore en soutane à cette époque-là. Et le père Carteron allait sans soutane pour être plus à l'aise au milieu des Algériens. Donc, il avait tellement de confiance. Il y avait tout un capital de confiance du côté des Algériens par rapport à Albert Carteron, qui les écoutait, qui les aimait, qui les aidait, qui suscitait autour d'eux tout un courant d'amitié et d'entraide de la part des Français et des chrétiens. Qu'il savait tout. Il savait tout. Et comme il savait tout, il avait peur, si la police l'arrêtait, de dire des choses qu'il n'aurait pas voulu dire. Parce que, sans être impliqué du tout dans aucune action, il savait tout parce que les gens avaient confiance et avaient besoin de lui confier leur vie. Alors, c'est pourquoi la police comptait obtenir beaucoup d'Albert Carteron. Et tout notre interrogatoire visait à les faire retrouver Albert Carteron, qui, au moment où il a appris l'arrestation des gens du service social de Saint-Fond, il a pensé qu'il fallait qu'il échappe. Et alors il s'est caché. Et c'est,
vous savez où il était aujourd'hui?
C'est nous. Je ne sais même pas où il a été. C'était un homme aussi qui savait garder des secrets. Et donc, nous avons été les fusibles. Et c'est ce qui explique cet interrogatoire très, très serré, très vigoureux, mais moins que celui qu'ont subi les Algériens.
Oui, là d'ailleurs, vous avez pu voir par les portes entrouvertes des salles de la police, un petit peu ce qui se passait. Quoi.
Non, je dis ce que j'ai vu, je ne peux dire que ce que j'ai vu. J'ai vu nos compagnons algériens, ils étaient 12, sortir de l'interrogatoire. Alors j'ai vu dans quel état assez minable ils sortaient de l'interrogatoire, je n'ai pas vu des coups. Seul, pour un seul d'entre eux, j'ai vu vraiment des traces très sérieuses de sévices. Dit Ali Semoud, avec qui nous nous sommes retrouvés le lendemain au petit dépôt du palais de justice. Je l'ai vu là s'écrouler dans le petit dépôt du palais de justice, et il avait sur la tête une plaque une plaie de la taille de la main, où il n'y avait plus un cheveu, et c'était... Bon, je n'ai vu que ça, j'ai vu cela. Hein.
Le soir, donc, après cette confrontation, un coup de fil du préfet Massenet donne l'ordre de vous relâcher, ce qui n'a pas dû faire très plaisir aux policiers. Et le même soir, à 19h, le Gerlier partait à Rome pour élire Jean XXIII.
Non, c'était la veille.
C'était la veille. Ah, il était déjà parti.
Il était déjà parti.
Pour ce qui est de vous, donc, on vous relâche à ce moment-là, non ? Ou vous passez la nuit
Non, c'est pas cette nuit-là. Ce soir-là, on nous a relâchés, puisque le préfet en avait donné l'ordre. Voilà. Alors, on nous a relâchés à regret, c'est évident, et sous les insultes. Mais nous avons été relâchés ce soir-là.
Et le lendemain matin ?
Alors, le lendemain matin, c'est...
Le vendredi ?
Rebelote.
On vous recueille.
Parce que, comme nous n'avons pas... enfin, plus exactement, en rentrant à la maison, après cette journée d'interrogatoire, nous avons brûlé les documents que nous avions camouflés la veille. C'est toujours dans la même intention de protéger les familles d'éventuelles représailles. Alors, tout ça est passé dans la chaudière. Donc, le lendemain, nous n'avons pas reporté à la police les documents qu'il réclamait. Et il pensait peut-être que c'était des documents d'un autre ordre. Hein. En fait, nous n'avions que cela. C'est un fait. Des documents qui concernaient le service social, la liste des familles. Ouais. Alors, oui, on s'est remis à...
Vous étiez convoqué ou ils sont venus
nous
vous chercher
plus. Non, non. Ils m'ont cherché. Mais je n'étais pas à la maison quand ils m'ont cherché, ils m'ont trouvé ailleurs, mais ils m'ont trouvé au début de l'après-midi où j'étais rue Nicolaï. J'étais allé voir la communauté des Petites Sœurs de l'Assomption et c'est là qu'ils m'ont rejoint et qu'ils m'ont reconduit au siège de la police judiciaire, rue Vauban et nouvel interrogatoire. Mais cette fois-ci, l'interrogatoire était tout à fait correct. Il n'y avait aucun genre de pression, d'injures, d'insultes, de menaces comme nous avions eu la veille. Mais cet interrogatoire a duré jusqu'à 1h du matin.
Et à 22h ?
Voilà, dans la soirée, vers 10h du soir, je pense, et s'est présenté au bureau du commissaire Monseigneur Ancel. Monseigneur Ancel, évêque auxiliaire de Lyon, qui était aussi supérieur général du Prado, dirigeait le diocèse depuis 2 jours, puisque le cardinal Gerlier était parti à Rome pour l'élection du pape. Donc, Monseigneur Ancel était à double titre mon responsable, comme évêque de Lyon, puisque je suis près du diocèse de Lyon, et comme responsable du Prado. Et il est venu demander de témoigner. On a reçu son témoignage. Il disait en substance, ces prêtres n'ont rien fait qui a outrepassé la mission que je leur avais donnée. C'est une mission, c'est un service de solidarité, d'entraide. J'assume tout ce qu'ils ont fait. Si vous avez quelqu'un à inculper, c'est moi qu'il faut inculper. Il a signé sa déposition et s'est retiré, mais moi je suis resté.
Vous êtes resté et à 1h du matin, on vous a offert une paillasse pour passer la nuit en attendant le samedi matin. À 8h, la garde à vue était terminée et à ce moment-là, on vous a conduit au palais de justice.
C'est exact. Et c'est peut-être intéressant pour nous faire toucher du doigt le climat général. Je ne suis pas allé au palais de justice dans le panier à salade parce qu'il n'y avait pas de place pour moi. Il y avait 12 Algériens qui étaient conduits au parquet avec moi. J'ai donc fait le parcours de la rue Vauban au palais de justice dans la voiture du commissaire. Mais là, tout était terminé. La garde à vue était finie. Tout avait été signé et le commissaire était tout à fait libéré par rapport à moi et redevenait un homme. Un homme à côté d'un autre homme. Et j'étais sur la banquette arrière à côté de lui. Et là, comme un homme, il m'a dit c'est épouvantable la vie que nous menons. Je ne vois plus ma femme, je ne peux plus m'occuper de mon fils. Et puis il m'a même fait cette confidence, je suis un ancien de la jeunesse ouvrière chrétienne. Alors vous voyez un peu à quoi je suis obligé. Sa promotion dans la police l'avait amené à être commissaire de cette brigade, mais où nous conduit cette logique de guerre, quoi. Et un homme, manifestement un brave homme, un honnête homme, hein, qui est obligé d'avoir cette conduite.
Hein. Et là, au palais de justice, hein, vous vous retrouvez en face du juge d'instruction, une personne qui s'appelle Monsieur Delay, qui est un de vos anciens colons de colonie de vacances, qui entre-temps avait beaucoup grandi et était devenu avocat, se présente de lui-même pour vous assister.
C'est exact, oui, oui.
Comment ça s'est passé chez le juge?
Oui. Alors, peut-être, je vais vous dire une petite anecdote, qui est pour moi une grande anecdote. Quand je suis arrivé au palais de justice, on nous a menottés par deux. C'est-à-dire, nous avions chacun une partie de la menotte au poignet. Et nous avons défilé dans tout le palais de justice, deux par deux, avec liés par les menottes. Je dis ça parce que c'est peut-être un peu affectif ce que je raconte là, mais j'y voyais tout un symbole, hein, cette liaison dans la souffrance, dans l'adversité. Hein, c'était un peu de peuple qui était lié là. Hein, et j'avoue que j'étais heureux. J'étais heureux de sentir cette communion. Et puis, un autre petit trait, nous n'avons pas été tout de suite présentés aux juges d'instruction, mais nous avons attendu un certain nombre d'heures dans le dépôt du palais, et nous étions d'abord tous ensemble. Et le gardien du dépôt fait appeler Mohamed Messoussa, qui était le sage de la bande, un homme de 40 ans, père de 10 enfants, hein, et qui était un sage, un homme intelligent. Et tous trouvaient comme un homme de bon conseil. Et la femme de Mohamed Messoussa avait trouvé, s'était renseignée pour savoir où était son mari. Sachant qu'il était au palais de justice, elle est venue lui apporter une boule de pain et un sac de raisin. Et le gardien a fait venir Mohamed Messoussa pour lui remettre ce cadeau de sa femme. Et alors, Mohamed nous a réunis, il a donné à chacun une bouchée de pain et quelques grains de raisin. Ils étaient 12, j'étais le 13e, mais c'est pas moi qui partageais le pain. Vous voyez comment j'ai pu vivre ça, en pensant à la scène, à la dernière scène du Christ partageant le pain. Et je sentais là, comme je le disais déjà tout à l'heure, cette communion profonde entre deux peuples. C'était significatif de ce qui devait arriver. Il faut que ces peuples se réconcilient.
Alors, on avance un petit peu sur les événements. Donc le dimanche, l'abbé Carteron débarque avec Monseigneur Ancel à 18h au palais de justice. Il sera inculpé et laissé en liberté. Et vous aussi, vous serez inculpé et laissé en liberté. Et puis depuis ce jour-là, vous êtes inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et vous n'avez jamais été jugé.
Atteinte à l'intégrité du territoire.
L'intégrité du territoire.
Exactement, oui.
Sur cet épisode de la libération et de la fin de votre passage au palais de justice, vous avez quelque chose à nous évoquer?
Non, ce que j'ai... Je le dis parce que c'est vrai. Ce que j'ai regretté, c'est d'être laissé en liberté alors que mes 12 compagnons étaient conduits à la prison Saint-Paul où ils devaient passer 9 mois. Mais 9 mois qui n'ont servi à rien. puisqu'ils n'ont jamais été condamnés, l'affaire étant tombée ensuite dans l'oubli, il n'y a même pas eu de non-lieu. De Gaulle est arrivé au pouvoir, la politique algérienne s'est infléchie, on a un peu laissé aller les affaires, et jamais les choses n'ont été jugées. Pas plus d'ailleurs qu'un procès où les Algériens qui avaient subi des sévices avaient porté plainte contre X, et j'étais convoqué au juge d'instruction comme témoin pour ce que j'avais vu. Mais ce procès-là non plus n'a jamais été célébré.
Je propose de faire une autre pause musicale. C'est une chanson qui s'appelle « Sur la colline » qui est interprétée par Guy Thébault, qui à l'époque était ecclésiastique aussi, et qui en 1956, dans la date où il a écrit cette chanson, évoquait déjà la guerre d'Algérie, vue du côté algérien cette fois. Un demi-mot peut-être, dans la perspective qui était la sienne, mais c'est assez rare d'avoir des chansons qui datent de cette époque-là sur ces thèmes.
Jamais plus ne m'endormirai tranquille. L'ont-tu, mon bien-aimé, sur la colline? Qui es-tu, frère torturé? Quel est ton crime? Je suis le mal-aimé qu'on assassine. Jamais plus ne m'endormirai tranquille. L'ont-tu, mon bien-aimé, sur la colline? Es-tu, frère aveuglé, toi qui opprimes? Je suis le mal-aimé et la victime. Jamais plus ne m'endormirai tranquille. L'ont-tu, mon bien-aimé, sur la colline? Je sais quel est ton nom, mon frère. Pardon, car c'est mon nom, ô Père. Jamais plus ne m'endormirai tranquille. L'ont-tu, mon bien-aimé, sur la colline? Un jour je m'endormirai tranquille. J'aurai chez mon bien-aimé asile.
Il était beau sur la colline. Eh bien, dans cette dernière partie d'émission, nous allons évoquer avec vous donc l'aspect médiatique de l'affaire et puis un petit peu ce qu'il en est. Là, nous avons eu l'affaire de Lyon par quelqu'un qui était au cœur de cette affaire. Il faut dire qu'à l'époque, la presse s'est emparée de l'affaire et il y a eu un certain tapage là autour que vous avez sûrement pas toujours trouvé reflété exactement ce qui se passait sans doute. Et puis il y a eu aussi l'intervention à cette occasion du cardinal Gerlier qui a insinué, à défaut de dénoncer ouvertement, les mauvais traitements que la police pratiquait sur les personnes arrêtées. Et tout ça a fait ce qu'on a appelé l'affaire de Lyon en termes médiatiques. Vous pensez avec le recul que finalement c'était bien que la presse s'empare de l'affaire, comme ça a eu lieu?
Bon, nous l'avons pas souhaité. Notre action là-dedans était tout à fait minime, tout à fait simple. C'était dans la ligne d'un service. Alors ce service, il avait été rendu par une multitude de gens, quantité de chrétiens avaient été alertés entre autres par Albert Carteron, hein, et avaient une attention très 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 aiguë pour ces populations. Je pense par exemple, il a beaucoup fait réfléchir des cadres de l'industrie qui avaient du personnel algérien. Il a fait réfléchir beaucoup le personnel de sanitaire, toutes les professions sanitaires et sociales qui étaient constamment en contact avec des Algériens, des familles algériennes. Il y avait tout un courant de solidarité et de sympathie qui a passé. Mais pas chez tout le monde, c'est évident. Chez les chrétiens, nous avons senti la même séparation, la même division profonde que chez l'ensemble des Français, avec les courants intégristes de part et d'autre. Vous voyez, hein, voilà. Alors, j'ai dit que c'est un tout petit fait, mais qui a été très révélateur, vous voyez, parce que on l'a qualifié. On a qualifié ce service d'une collusion avec l'ennemi de la patrie. Donc, qualifier ce que nous avons fait de atteinte à l'intégrité du territoire national, c'est énorme. Mais ça a été qualifié ainsi. Donc, on avait deux prêtres, deux ecclésiastiques qui étaient des traîtres. Voilà. Alors, bon, tout le monde a réagi dans un sens ou dans un autre. Et le fait que la presse est largement diffusée, la presse nationale a fait tout un tapage à la une. Et donc ça a amené effectivement énormément de réactions. Puis il y a eu les réactions officielles, celle du ministre de l'Intérieur, qui n'était pas tendre, celle de la police, celle
c'était du... C'était qui du, en 58
C'était un certain monsieur Pelletier, qui avait signé un communiqué très désobligeant à notre égard. Il y a le gouverneur militaire de Lyon, qui avait eu des propos très durs et très directs à notre égard. Et puis les responsables de l'Église, le cardinal Gerlier, Mgr Ancel, le cardinal Liénard, qui était responsable à l'époque de la Mission de France et qui avait un des prêtres de la Mission de France, qui a été arrêté aussi à Paris, le même jour que nous. Donc la hiérarchie nous a totalement couvert et a dit nous assumons la mission qu'ils ont... Nous assumons les faits comme de la mission qu'ils ont reçue de nous.
À avoir relu les articles de presse, j'ai l'impression que la hiérarchie a mal pris cette arrestation, cette implication de ces curés dans le soutien à la résistance algérienne, et qu'elle a un petit peu tapé du poing sur la table en demandant aux policiers de balayer un petit peu devant leur porte aussi, et en faisant allusion à ces mauvais traitements qui étaient de notoriété publique, mais qu'il n'était pas évident de voir dénoncer dans la bouche d'un évêque, quoi.
C'est vrai que à Lyon, depuis déjà un certain temps, des échos sortaient de la police judiciaire où on signalait quand même des traitements, je ne peux pas parler de torture, mais on a parlé de sévices, et enfin, ce que j'ai vu me laisse entendre qu'il y avait quelque chose d'authentique. Et le cardinal Jallier s'est élevé contre ce qui lui a valu beaucoup de réactions aussi du monde officiel, politique, hein, mais il a pris les choses très courageusement, en disant d'ailleurs, en faisant l'éloge de beaucoup de policiers qui agissaient très dignement dans leur métier.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Pour conclure, je pense qu'on, si vous le voulez bien, on se reverra, parce que je peux dire d'un mot que vous avez ensuite passé 23 ans de votre vie comme prêtre ouvrier, et ça peut-être être le sujet d'une autre rencontre. Pour ce soir, vous m'avez dit qu'il y avait eu avant et après cet événement de l'affaire de Lyon. Ça veut dire quoi pour vous?
Ça veut dire que c'est pas la guerre d'Algérie qui nous a impliqués avec les Algériens, mais que je l'ai déjà dit bien avant, grâce à des hommes comme Albert Carteron et beaucoup d'autres. Je pense à beaucoup de laïcs aussi qui ont œuvré dans le même sens, hein. Donc il y a un lien a été fait, un respect pour cette population. On l'a traité dignement. Chacun a voulu intégrer cette population chez nous. Vous voyez, ils sont des nôtres, ils sont des frères. Vous voyez. Et je disais que chez Albert Cattero, par exemple, il y a une vie tout à fait cohérente. C'est que après la guerre d'Algérie, quand la guerre d'Algérie a été terminée, il est parti s'enfoncer dans un dispensaire du bled, où il est devenu infirmier, puis médecin. Et il a consacré jusqu'à 80 ans, jusqu'à sa mort accidentelle, il a consacré toute sa vie à la promotion de ce peuple algérien, en formant des auxiliaires de la santé dans les dispensaires. Vous voyez. Donc je dis, il y a une cohérence profonde. Je pensais aussi à un autre ami dont on n'a pas parlé, Jean Courbon, qui est décédé l'année dernière, et qui, lui, ne s'est pas soumis à l'obligation du service militaire. Il était officier, et quand on l'a rappelé, il a d'abord consulté le cardinal Jallier en disant « Les Algériens sont mes amis ». Et il avait une amitié profonde avec tous ces Algériens de sa paroisse, là, de la vallée de Londaine, à Firminy. Il dit « Je ne peux pas prendre des armes contre mes amis ». Cardinal Jallier lui a dit « Faites selon votre conscience ». Non, faites pas de publication. Et il est parti au Maroc au lieu d'aller rejoindre son régiment en Algérie. Et en 62, quand l'Algérie a connu la paix, il est allé comme instituteur et il a vécu jusqu'à son dernier jour comme instituteur pour le service de la promotion culturelle des petits Algériens. C'est ce instant, je dis, il y a un avant, il y a un après, il y a une cohérence, il y a tout un lien. Et notre engagement, c'était pas un engagement dans la guerre d'Algérie, mais dans la paix pour l'Algérie.
Louis Magnien, je vous remercie. Bonsoir. On se quitte avec un document que vous m'avez procuré, complètement inédit. On ne sait pas qui a écrit la chanson ni qui la chante, mais ça s'intitule Paris sur Seine et ça évoque certains événements du 17 octobre 61 à Paris.
Tu rejoins le cortège, j'entends battre ton cœur. Neuilly l'étoile concorde, tu te mêles au cortège. Il faut que je comprenne pourquoi tu traînes ta peine. Coule la Seine. Coule l'oubli, Saïd, Saïd, tu ne nous as rien dit. Faut-il que la douleur tue, t'es-tue. Les oubliés de la Seine, tant de haine. Saïd, Saïd, à quoi tu penses? Faut-il que la douleur tue ?
son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistan Claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistan Claque. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque.
Thank you.
chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. C'est pas de la rengaine, à Gavelise, passant pas des tubes que reprennent les gros guerres d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. Le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque.